Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa dernière émission du mois de janvier 2023. Voilà, on ne va pas vous renouveler des souhaits de bonne année, c'est le dernier jour pour le faire, mais on l'a déjà fait,
on n'est pas en retard.
À l'émission d'il y a 15 jours, donc réécoutez-la.
On peut toujours souhaiter plein de bonnes choses.
On peut toujours souhaiter, effectivement. Et pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a aussi Jonathan qui est venu. Bonsoir. Qui est venu un petit peu en visiteur pour voir comment ça se passait, pour éventuellement participer à une prochaine émission. Donc tant mieux. Bonsoir, Jonathan.
Voilà. Et on a peut-être un autre visiteur qui va arriver, oui. Mais il est un peu à la bourre.
On verra, mais ça, voilà.
Et donc, je vais baisser un peu les micros parce que je crois qu'ils sont un peu forts. Voilà. Et donc, plein de sujets pour de la défense des droits humains ce soir, on va vous faire un petit tour du monde hein, parce qu'il y a plein de pays qui vont être concernés, dont la France. Et juste pour commencer avec la France, donc je vais vous dire quelques mots, ça va être très bref. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mouvements sociaux importants en ce moment en France, effectivement, par rapport à ce projet de loi sur les retraites, sur lequel Amnesty n'a pas d'avis, parce que ça rentre pas dans ses préoccupations militantes. Mais, par contre, elle a un avis sur le droit de grève et le droit de manifester. Alors, je vais simplement vous parler du droit de grève, le droit de manifester, on va en reparler dans de prochaines émissions, parce que c'est un gros dossier pour toute l'année et les années futures au niveau d'Amnesty International. Mais concernant le droit de grève, simplement pour rappeler ce que dit Amnesty, à savoir que le pacte international des droits économiques, économiques, sociaux et culturels, ce qui s'appelle le PIDES en abrégé, qui est un des droits humains fondamentaux de l'ONU sur lequel s'appuie Amnesty, reconnaît dans son article 8 que le droit de grève exercé conformément aux lois de chaque pays est un droit fondamental. Voilà. Donc le droit de grève, bien sûr, est tout à fait à respecter par tous les États, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais il devrait le faire. Et alors, pour simplement vous dire un tout petit développement, mais ça va être très court, je suis allé sur Internet en préparant l'émission, et au niveau des organismes qui font partie de l'ONU, il y a l'Organisation Internationale du Travail, ou OIT, et donc je vais vous dire quelques mots. Alors, sa devise de l'OIT, c'est « Si tu veux la paix, cultive la justice », que je trouve qui est une belle phrase. Elle est gravée dans la pierre et dans les locaux de l'OIT, et le Bureau International du Travail est au secrétariat permanent de l'ONU à New York. Sa mission est de rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs des États membres dans le cadre d'une institution tripartite en vue d'une action commune pour promouvoir les droits au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. L'OIT a été fondée le 11 avril 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale pour poursuivre une vision basée sur le principe qu'il ne saurait y avoir de paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. En 1946, l'OIT devient la première agence spécialisée des Nations Unies. En 2022, l'organisation regroupe 187 États membres, donc quasiment tous. Son siège est situé en fait à Genève, c'est pas à New York, j'ai fait une petite erreur, son siège est situé à Genève, en Suisse, et l'organisation a été distinguée en 1969 par l'attribution du prix Nobel de la paix, ce qui en fait un point commun avec Amnesty. Voilà, donc c'était les quelques mots que je voulais vous dire. Bon, je vous renvoie sur les différentes publications de l'OIT que vous allez très facilement trouver sur Internet par rapport à ce droit de grève, et tous les développements, mais ça fait des pages et des pages, c'est très intéressant à lire. Mais donc, le droit de grève est un droit fondamental pour tous les travailleurs, pour faire respecter leurs droits.
Et le droit de manifester aussi.
Bien sûr,
voilà. Mais comme je disais au début, avec l'autre.
Le droit de manifester, on y reviendra dans de futures émissions beaucoup plus en longueur. Voilà. Et sans transition, comme on dit dans les médias,
Enfin, que tu dis dans ton média.
Oui, qu'on dit dans... c'est ça. Il y a Claire Lys qui doit vous parler des migrants en Espagne, mais je crois qu'elle a un petit souci avec son micro.
Non,
je crois que le micro, là, il marche pas bien. Prends l'autre, Claire Lys.
Attends,
voilà.
attends.
Les choses de micro, c'est pas très compliqué.
Oui, mais là. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé entre l'Espagne et le Maroc. Donc, le 24 juin 2022, donc ça date un petit peu, les forces de sécurité marocaines et espagnoles ont fait usage de la force, et un usage illégal, et ils ont commis des actes pouvant s'apparenter à de la torture et d'autres mauvais traitements pour arrêter violemment des personnes qui tentaient simplement de passer la frontière. Donc, les forces de sécurité ont utilisé des matraques, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Et ils ont frappé des personnes à coups de pied, à coups de poing, dans un espace clos où les personnes ne pouvaient pas facilement sortir, même après avoir été immobilisées et placées sous le contrôle de la police. Donc, les autorités marocaines et espagnoles n'ont pas fourni d'assistance médicale rapide et adéquate aux blessés, tandis que des dizaines de personnes ont été laissées sans surveillance, en plein soleil, pendant au moins 8 heures. Et donc, parce que je suis en train d'ouvrir un autre document, voilà. Quelques semaines après, un accord entre les gouvernements au changement de politique de l'Espagne en ce qui concerne le Sahara occidental, donc c'est au moins 23 personnes qui sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Certaines organisations travaillant sur le terrain ont estimé le nombre de morts à 37. Une enquête est indispensable, mais aussi il est essentiel de placer les droits au centre de nos politiques migratoires. Le bilan des victimes continue de s'alourdir. Vendredi dernier, donc au moins 23 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Certaines organisations travaillant sur le terrain ont estimé le nombre de morts à 37. Leurs corps attendent d'être enterrés dans des tombes creusées à la hâte. Mais pour autant que nous le sachions, aucun d'entre eux n'a été formellement identifié ou n'a subi d'autopsie. Et leurs restes n'ont pas été rendus à leurs proches pour un adieu digne. Les images et les séquences sont choquantes. Des tas de personnes, mortes et vivantes, entassées sur le sol, tandis que la police marocaine marche au milieu d'elles, les secouant et les frappant avec des matraques et des bâtons. Daniel Canales, chercheur à Amnesty Espagne, a vu des images inédites de la police espagnole remettant des réfugiés potentiels, dont la plupart viennent du Soudan, à des policiers marocains, sans aucune sorte d'enquête ou de procédure pour déterminer s'ils ont besoin de protection. Une fois remis, ils sont à nouveau battus par les policiers marocains. Amnesty International a demandé qu'une enquête indépendante et approfondie soit menée sur ce qui s'est passé à cette frontière. Une frontière qui a connu des événements dramatiques depuis des décennies. En 2005, au moins 13 personnes sont mortes aux mains de la police marocaine et espagnole, et en février 2014, 15 autres personnes se sont noyées sur la plage de Tajaral, lorsque la police espagnole a utilisé du matériel anti-émeute contre elle. Ces dernières violations des droits humains surviennent quelques semaines seulement après un accord entre les gouvernements espagnols et marocains visant à rétablir des relations amicales suite au changement politique de l'Espagne sur le Sahara occidental. Cet accord explique peut-être pourquoi, lorsque les premières informations ont commencé à faire état de morts à la frontière, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a félicité l'action coordonnée de la garde civile espagnole et des forces de sécurité marocaines. Lorsqu'il est appelé, il est apparu qu'au moins 13 personnes étaient mortes, Pedro Sanchez a imputé la responsabilité de ces décès aux mafias. Mais qui a laissé les gens mourir sur le terrain sans soins médicaux appropriés? Qui a remis les réfugiés potentiels de Melilla à la police marocaine en sachant qu'ils seraient maltraités? Qui maintient fermés les bureaux d'asile et de réfugiés de Melilla en sachant qu'il n'y a aucun moyen de demander une protection en Espagne si vous venez du Soudan ou du Mali, sauf à risquer la mort en sautant la barrière? Qui a laissé les gens mourir sur le terrain sans soins médicaux? Qui a remis ces réfugiés donc, à la police marocaine en sachant qu'ils seraient maltraités?
Dans un acte de solidarité sans précédent, l'Espagne a accueilli plus de 124 000 Ukrainiens, fuyant l'invasion de la Russie, et pourtant, nous laissons mourir des réfugiés potentiels fuyant d'autres guerres. Au contraire, ceux qui fuient la guerre au Soudan sont empêchés de demander l'asile en Espagne en violation du droit international. Cette position ne peut être décrite que comme raciste. Il est temps de mettre un terme à cette politique qui permet et encourage de graves violations des droits humains. L'approche « business as usual » n'est plus valable au milieu du sang et de la honte. Donc ces derniers jours, les médias du monde entier ont mis en doute l'efficacité de la politique migratoire des gouvernements espagnols et marocains et ont souligné le traitement cruel des personnes en quête de protection ou d'une vie meilleure. Il est temps que la politique migratoire de ces pays abandonne les matraques et les violations du droit international. Voilà.
Oui. Merci.
L'article est plus long, mais je vous ai dit l'essentiel et je pense que voilà, il faut rester vigilant. Parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en Méditerranée et ce qui se passe entre la collaboration entre la garde civile espagnole et la police marocaine est quand même très inquiétante.
Oui, bah ça rejoint le grand dossier dont on a très souvent parlé et que malheureusement on sera amené à reparler très souvent, qui est effectivement les migrants à travers la Méditerranée et toutes les atteintes aux droits fondamentaux que ça représente avec la politique actuelle de l'Europe. La forteresse Europe, comme dit Amnesty, je sais bien que ça ne plaît pas du tout aux officiels, mais c'est pourtant la réalité, qui ne veut pas partager une part de son gâteau vis-à-vis des gens qui réclament simplement l'asile et simplement de mener une vie digne. Voilà. Sans transition, comme on dit toujours dans les médias, et au moins ici, deuxième fois.
Je note.
Tout à fait. Et Edith, je crois qu'il voulait nous parler de quoi ? D'Israël ?
Israël et les territoires occupés de Palestine. Alors, effectivement, suite à ce que tu viens de dire, Claire-Lise, entre Israël et la Palestine et les territoires occupés, c'est... Comment dire, des années de conflits avec des moments plus ou moins forts. Et là, dernièrement, le 26 janvier 2023, un homicide d'au moins 9 Palestiniens et Palestiniennes par les forces israéliennes au cours d'un raid militaire mené contre le camp de réfugiés de Jenin. Alors, c'est Philippe Luther, qui est le directeur de la recherche et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amnesty International, qui fait cet article. En l'espace d'à peine quelques heures, ce matin, les forces israéliennes ont tué au moins 9 personnes et en ont blessé 20 de plus. Elles ont empêché les ambulances d'accéder aux personnes blessées et ont tiré du gaz lacrymogène sur un hôpital, ce qui aurait provoqué des détresses respiratoires chez des enfants malades. Des médecins de Jenin ont déclaré qu'un enfant faisait partie des personnes soignées pour des blessures par balle et les autorités palestiniennes ont confirmé qu'une dame de 61 ans figurait parmi les personnes tuées. Depuis près d'un an, le camp de réfugiés de Jenin est au cœur de l'escalade de la répression militaire d'Israël. La journaliste palestinienne Shirin Abu Alklet a été abattue dans le camp en mai dernier. Et les résidents continuent à subir des raids militaires incessants qui s'apparentent à des sanctions collectives. Et pendant ce temps, Israël continue de jouir d'une impunité totale pour ce système d'apartheid qu'elle impose à la population palestinienne. Un système perpétué en partie au moyen de violations des droits humains contre des homicides illégaux. Et tandis que le nombre des victimes palestiniennes augmente, la réponse de la communauté internationale aux violations commises par Israël se résume au mieux à une timide condamnation et au pire à un soutien inconditionnel. Le bain de sang d'aujourd'hui est un rappel du coup de cette inaction honteuse. Tant qu'il n'y aura pas de reddition de compte, les attaques contre les Palestiniens et Palestiniennes à travers les territoires palestiniens occupés se poursuivront. Et je rajoute, le nouveau gouvernement israélien n'est absolument pas, porteur d'une once d'optimisme pour cette situation et plutôt, mettre de l'huile sur le feu, voire faire des actions comme celle-ci.
Oui, c'est sûr que le gouvernement actuel de Benjamin Netanyahou, c'est ça le... premier ministre israélien qui a introduit effectivement dans son gouvernement des gens d'extrême droite. Ouais, ça me laisse toujours rêveur hein, quand on pense à la Shoah et au massacre des populations juives
mais
en Europe.
Ils protègent Israël, mais pas les autres.
Par l'extrême droite, voilà. Par l'extrême droite nazie et autres de l'époque, et quand on parle maintenant de juifs effectivement et de ministres juifs d'extrême droite, bon, il y a des espèces de télescopages de l'histoire comme ça qui laissent rêveur. Et donc, tu as employé tout à l'heure, mais on va pas le développer là non plus par manque de temps tout de suite, mais on y reviendra, je pense.
L'apartheid.
Voilà. En préparant l'émission, comme je savais que tu allais en parler, j'ai relu tout le dossier qui a publié il y a à peu près un an, enfin un peu moins d'un an, Amnesty International sur l'apartheid en Israël, qui a fait pas mal de bruit dans les médias, parce que bien sûr, du coup, Amnesty International a été taxé de façon tout à fait honteuse d'être devenu une ONG pro-palestinienne et surtout antisémite, alors que ça n'a strictement rien à voir, et qu'Amnesty rappelle dans ce rapport, que en fait la définition de l'apartheid est définie maintenant par des traités internationaux, que bien sûr c'est inspiré de ce qui se passait en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, justement c'est là d'où vient le nom, mais qu'en fait maintenant c'est défini par des critères qu'on peut très très facilement résumer hein, en relisant effectivement j'ai souligné la phrase. Donc il y a trois critères principaux pour définir l'apartheid: c'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre. Un ou des actes inhumains tels que les transferts forcés de populations, tortures et meurtres, et une intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre. Voilà, c'est ce qui définit effectivement l'apartheid. Alors ça n'a de référence que le nom par rapport à ce qui se passait en Afrique du Sud, à ce qui se passe en Israël, mais ces trois critères-là ont été réunis par Amnesty avec preuve à l'appui, comme quoi effectivement ça correspond à cette définition. Et ce qui est impliqué vis-à-vis de la population palestinienne, c'est absolument inimaginable, quoi. Je veux dire, voilà. Même dans le rapport d'Amnesty, en le relisant effectivement aujourd'hui, ça m'a remis en mémoire que, par exemple, il y a de nombreux couples qui se forment entre Palestiniens, mais s'ils n'habitent pas au même endroit entre les différentes enclaves, s'ils n'habitent pas aux mêmes endroits, eh bien, en fait, les couples ne peuvent même pas habiter ensemble, mari et femme. Donc voilà, on en est rendu. C'est un des exemples. Hein. Et il y en a plein d'autres comme ça.
Et là, la démolition systématique des maisons,
c'est ça.
Quand il y a eu simplement un membre de la famille éventuellement qui a commis une infraction. Enfin bon, c'est vraiment la terre brûlée.
Même s'ils n'ont pas commis d'infraction. D'accord. Je vous recommande quand même la lecture de ce rapport. Alors, le résumé en français fait quand même 30 pages. L'original en anglais en fait près de 200. Donc, voilà. Avec tout l'argumentaire. Mais c'est absolument. Et vous le trouvez sur le site d'Amnesty. Hein, vous tapez rapport Israël et vous allez le trouver tout à fait facilement. Le site d'Amnesty, c'est amnesty.fr. On le dira jamais assez. Donc, je vous encourage à lire ce rapport. Je pense qu'on aura l'occasion là aussi de revenir peut-être plus en détail là-dessus dans de prochaines émissions, je ne sais pas lesquelles, mais on verra, effectivement. Et on rappelle encore une fois, mais ça, c'est sans doute inutile de le dire quand on connaît Amnesty, mais quand même, on a subi beaucoup d'injures par rapport à ce rapport. Bien évidemment qu'Amnesty International n'est absolument pas une organisation antisémite.
Ça, c'est arrêter la déclaration des droits humains. Voilà c'est ça la base.
Pour parler simplement.
Qu'on aurait droit?
Oui.
Oui, petite musique.
Une petite musique, tout à fait, oui.
Je regarde l'heure.
Une première pause musicale et on se retrouve juste après.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas. Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver. On finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras, capitale violon aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Le ciel bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Bout de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission sur les, la défense et la promotion des droits humains. Mais ça, je pense que les gens qui nous écoutent sont déjà au courant. Donc on va continuer l'émission. Je vais vous parler d'un article qui est paru dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France, que vous pouvez aussi vous abonner, on vous le recommande chaudement, sur le site d'Amnesty International, amnesty.fr. Il y a un formulaire d'abonnement, donc n'hésitez pas. Et l'article s'appelle « Aboubacar in Parliamento ». Alors, je ne parle pas du tout italien, mais voilà. Je vais directement vous dire le début de l'article, après je vais résumer la suite. Hein. « Je suis un homme, je suis noir, je suis italien. » Ces mots, Aboubacar Soumaoro aurait pu les prononcer après son élection en tant que député d'Émilie-Romagne. Il aurait ainsi pris le contre-pied de la nouvelle première ministre Giorgia Meloni, en parenthèse qui elle aussi est d'extrême droite, qui scandait lors d'un meeting en 2019 qu'elle était une femme chrétienne et italienne. Mais parfois, un symbole vaut mieux qu'une déclaration. Le 14 octobre 2022, Aboubacar est entré au Parlement chaussé de bottes en caoutchouc pour rendre hommage aux travailleurs agricoles qu'il a défendus tout au long de sa campagne électorale. Pourtant, rien, ou si peu, ne prédisposait Aboubacar à la fonction de représentant au Parlamento italien, donc le Parlement, à près de 8000 km de la Côte d'Ivoire, le pays qui l'a vu naître le 6 juin 1980. Villageois, ses parents l'envoient chez un oncle à Abidjan pour qu'il y poursuive ses études. À 12 ans, les week-ends, il gagne un peu d'argent de poche en cirant les chaussures des passants. À 16 ans, il reçoit une lettre d'un cousin lui annonçant son départ pour Foggia, en Italie, où il va récolter les tomates. À 19 ans, il rejoint ce fameux cousin qu'il admire et découvre alors le marché aux bras de Melito dans la région napolitaine. Autour d'un rond-point, plusieurs centaines d'hommes se présentent à l'aube dans l'espoir qu'un habitant du coin leur donne du travail pour la journée. Déménagement, maçonnerie, désherbage, etc. Le tout pour un salaire de misère, environ 24 euros les 12 heures de travail, sans contrat ni protection sociale. On a la sensation d'être de la marchandise exposée, dépouillé de toute humanité, commente le néo-arrivant dans son livre « L'humanité en révolte » qu'il a publié en 2019. L'extrême précarité, Aboubacar en prend douloureusement conscience lorsque, blessé sur un chantier, il reste sans emploi et donc sans argent pendant les jours suivants. Ces épreuves le marquent au fer rouge, elles seront à l'origine de son engagement associatif et syndical. Bon, l'article continue effectivement en expliquant ce que les différentes prises de position d'Aboubacar dans les années qui ont suivi et pourquoi il a fini par se présenter effectivement à ce, en tant que député après avoir eu un permis de séjour et avoir été comment dire avoir un statut officiel en Italie. Donc comment il s'est présenté au Parlement, effectivement. Et il rappelle aussi que dans les conditions de travail, effectivement, dans les champs où il a travaillé, étaient absolument épouvantables, où il travaillait sans pause sous un soleil de plomb. Bien sûr, les travailleurs doivent payer pour le logement, le transport, la nourriture et l'eau, alors même qu'ils perçoivent un salaire largement en dessous du minimum légal. Bon, ça, c'est un exemple, effectivement, des choses qui lui ont donné envie d'aller plus loin. Et donc, il a fini par être élu au Parlement, et il a siégé pour la première fois donc l'année dernière, à l'automne dernier. Et pour sa première prise de parole à la Chambre, Aboubakar ne s'est pourtant pas démonté, alors qu'il n'avait pas l'expérience d'être député, bien sûr. « Je voudrais vous rappeler, voilà ce qu'il a dit, je voudrais vous rappeler que l'on est italien par la naissance, mais qu'on peut aussi le devenir. L'Italie a besoin de patriotisme, oui, mais solidaire. L'Italie n'a pas besoin de souverainisme égoïste et d'isolationnisme qui encourage la chasse aux sorcières. » Voilà ce qu'il a dit, effectivement. Et il a rappelé aussi une phrase qui avait été employée par un ministre précédent, lui aussi, d'extrême droite. Je crois que c'était, Matteo Salvini, qui parlant d'une autre personne, effectivement, qui avait la même couleur de peau qu'Aboubakar, qui l'avait traité de orang-outan. Ça rappelle aussi ce qui avait été dit sur une ancienne ministre en France, Taubira, qui avait été comparée à une guenon, je crois, par quelqu'un d'extrême droite en France sur les réseaux sociaux. Décidément, ces gens-là ont toujours les mêmes références. Ça n'évolue pas beaucoup. Et donc, pour conclure dans cet article, effectivement, je vous ai fait un résumé très court, mais ce fameux Matteo Salvini, cet ancien ministre d'extrême droite, il a déclaré à l'occasion d'un discours public il y a 4 ans, pour les immigrés clandestins, donc Aboubakar au départ, la fête est finie, préparez-vous à faire vos valises. Et en fait, Matteo Salvini se trompait en 2 points. Non, vivre en Italie n'a jamais été une fête pour les travailleurs sans papier, et pour autant, non, il n'est pas question pour eux de préparer leurs valises. Voilà, je pense qu'il faut... Alors, je vous renvoie à l'article complet sur la chronique. Je pense qu'il faut avoir toujours ça en conscience, surtout que, comme Claire-Lise, vous l'avez dit à la première émission du mois de janvier, la dernière, écoutez-la, il y a une nouvelle loi qui se prépare, on y reviendra aussi, une nouvelle loi qui se prépare en France pour restreindre encore un peu plus les droits des demandeurs d'asile et des migrants, et que ça commence vraiment à faire plus que la coupe déborde, quoi. Vraiment, ça devient insupportable.
Mais ce qu'on peut dire là, c'est qu'il a été élu. Donc il n'y a pas que des immigrés qui ont voté pour lui, non, mais il y a des Italiens, il y a des travailleurs pauvres, il y a peut-être même aussi des gens avec plus investis dans la société italienne. Donc ça, c'est aussi positif, quoi. Tout le monde ne pense pas ce qu'on voudrait nous faire croire.
Tout à fait. Et juste, alors ça te fait penser, mais c'est un petit commentaire que j'avais lu après les dernières élections l'année dernière en Italie qui a permis à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. C'est pas parce que, en fait, le score électoral de l'extrême droite a considérablement augmenté en Italie. Pas du tout, il a quasiment pas bougé. C'est parce qu'une grande partie de l'électorat italien ne s'est pas déplacé pour aller voter. Voilà.
Bah, ça fait penser à ce qui se passe un peu en France aussi.
Oui.
Et dans plein de pays, quoi, où effectivement, voilà.
Tout à fait. Et donc, je crois que...
Mais moi, je vais garder la parole.
Voilà, il y avait Edith qui voulait parler de reconnaissance faciale. Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, vous savez que j'aime bien aller fouiller un peu dans tout ce qui se passe sur les nouvelles technologies. Hein, et d'ailleurs, pour continuer à faire de la pub sur la chronique d'Amnesty, il y a régulièrement une page sur un peu ce qui se passe. Et sur les nouvelles technologies, il y a quelque chose de bien, mais il y a quelque chose de pire. Et là, c'est en France... Et je vais vous dire, JO 2024, ça va causer à tout le monde, quoi, hein, la France qui reçoit les JO à Paris. Eh bien là, tout de suite, il y a une loi, un projet de loi, qui a dû être voté aujourd'hui au Sénat, bon, j'en sais pas plus, mais donc ce projet de loi est relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et les mesures de ce projet de loi soulèvent des graves préoccupations. Le texte légaliserait pour la première fois en France l'utilisation d'une surveillance s'appuyant sur des systèmes d'intelligence artificielle. Une pratique qui comporte de graves dangers pour nos droits. Alors voilà l'explication. Voter en état, ce projet de loi marquerait une première étape dangereuse pour les droits humains, dont le droit à la vie privée. Amnesty appelle les sénateurs et les sénatrices à prendre toute la mesure de l'impact d'un tel choix sur le futur de notre société et Amnesty demandent la suppression de cet article 7 qui introduit cette mesure. Alors honnêtement, je n'ai pas été voir les résultats des élections au Sénat du 31, on pourra vous en parler la prochaine fois, mais déjà que la loi ait été proposée, c'est quand même déjà quelque chose.
Donc c'est sur la reconnaissance faciale.
Alors voilà,
en fait, c'est donc, l'utilisation de caméras.
7, ouais. L'article 7 propose d'expérimenter la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance, je dis tout bien parce que tous les mots valent, ouais. La vidéosurveillance algorithmique avec pour objectif affiché de garantir la sécurité autour d'événements publics importants. Concrètement, des algorithmes vont analyser des images issues de caméras fixes ou de drones pour détecter et signaler en temps réel des comportements anormaux ou suspects prédéterminés sans que ne soit précisé ce que recouvrent ces notions. Alors, si la lutte, Amnesty dit, contre la criminalité ou le terrorisme est légitime, elle doit cependant être encadrée et répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Or, la disposition proposée par l'article 7 ne remplit pas ces conditions. Là, c'est un résumé de Katia Roux, qui est responsable plaidoyer technologie et droits humains à Amnesty. Alors, le gouvernement, certes, affirme qu'aucune donnée biométrique ne sera utilisée pour identifier des personnes. Mais pour autant, les algorithmes évalueront des comportements en analysant des données des données corporelles ou comportementales qui sont des données personnelles relevant du droit de la vie privée et devant être protégées. Par ailleurs, l'efficacité de ces technologies d'évaluation pour lutter contre la criminalité fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté scientifique. Ce savoir ou se penser surveillé peut également amener des personnes à modifier leur comportement ou à s'auto-censurer. L'effet dissuasif d'une telle surveillance de l'espace public comporte donc également un risque d'atteinte au droit de la liberté d'expression et de réunion pacifique. Alors, on va revenir sur le droit de manifester, Didier, on n'en est pas loin. Enfin, si le gouvernement insiste sur le caractère expérimental et exceptionnel de ce projet de loi, la portée de texte dépasse largement les seuls Jeux Olympiques de 2024.
Oui, c'est ça, c'est qu'une fois qu'ils installent le truc...
Ce sont en effet tous les événements sportifs, festifs et culturels...
Et puis les petites manifs, allez.
...qui seront concernés par le dispositif de surveillance dès l'adoption de la loi et jusqu'en juin 2025. L'exception risque donc de devenir la norme dans un contexte de volonté très claire des autorités françaises d'élargir leur pouvoir de surveillance. Les Jeux Olympiques ne doivent pas servir de prétexte pour faciliter l'instauration d'un état d'exception permanent. Alors, là, c'était le texte. Et moi, je suis allée voir un peu quand même reconnaissance faciale. Bon, on dit ça vite fait. Mais en quoi ça consiste et quels en sont les dangers? Donc, Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer et liberté Amnesty, avait fait un article il n'y a pas très longtemps, là, cet été. Donc, je me permets de vous donner ces quelques infos parce qu'elles m'ont éclairé aussi un peu. Alors, la reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'identifier ou de confirmer l'identité d'une personne à partir des traits de son visage. Les algorithmes des systèmes de reconnaissance faciale croisent les images recueillies de visages humains avec des images stockées dans une bande de données. Une base de données, excusez-moi. La reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des technologies biométriques qui se sont déployées à des fins multiples par les États, les entités commerciales. Il existe plusieurs types de données biométriques qui peuvent correspondre soit à des caractéristiques physiques, soit à des caractéristiques comportementales. Image ou quelquefois la vidéo d'un visage est une donnée biométrique physique. Il s'agit d'une donnée plus accessible et plus difficile à cacher que d'autres données biométriques comme l'ADN. Donc, Anne-Sophie nous dit, la reconnaissance faciale est un secteur très opaque. Les technologies se sont développées plus vite que les législations. Elles peuvent permettre de surveiller de façon très large la population. Et il n'y a pas de condition dans laquelle ça peut se passer. Ça peut bien se passer pour les droits humains. Donc, il y a une reconnaissance faciale pour laquelle Amnesty ne met pas d'opposition, c'est la reconnaissance faciale à des fins d'authentification. Lors d'un voyage, vous avez été déjà confronté à un contrôle de votre passeport via des logiciels de reconnaissance faciale, c'est de l'authentification. On compare un visage par rapport à la photo que vous avez soumise. Ce n'est pas de la surveillance de masse. Un encadrement est nécessaire pour protéger vos droits, mais on ne demande pas l'interdiction de cet usage. En revanche, là où ça pose problème, c'est lorsque les systèmes d'identification par reconnaissance faciale sont utilisés pour déterminer l'identité d'une personne à partir de son visage parmi l'ensemble de personnes. Donc là, il y a forcément un stockage de bases de données, des milliers, voire des millions de personnes. Cela implique donc le stockage, ce que je viens de dire, une analyse et une utilisation à grande échelle des données et une collecte de données sensibles à caractère personnel. Or, la surveillance de masse non ciblée constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la liberté d'expression, au droit d'association et au droit de manifester. Anne-Sophie Saint-Père dit « Le fait de confier à un État la possibilité d'identifier l'intégralité de sa population simplement parce qu'elle est dans l'espace public, c'est extrêmement grave. » Alors, ce qui se passe déjà, c'est qu'il y a déjà des reconnaissances faciales dans les rues de villes. Bon, en France, je crois qu'il y a un ou deux pays, je pense Nice, enfin bon, il y a des choses comme ça qui se passent.
Il y a de plus en plus de villes.
À New York, Amnesty avait mené une enquête pour compter déjà les caméras fixes et voir un peu à quel moment on peut se faire voir et à ce moment-là, on peut utiliser. Il y a l'Inde aussi. Donc, on observe vraiment en droit international, l'État peut surveiller des personnes seulement dans des conditions très strictes. Il faut que ça soit une surveillance ciblée sur la base de soupçons raisonnables qui soient strictement nécessaires. On observe des dérives à l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale. On peut s'en prendre à des activistes, à des défenseurs de droits humains. Alors, exemple, en Russie, la reconnaissance faciale a été utilisée pour identifier des manifestants qui protestaient contre l'arrestation d'Alexei Navalny. La police était venue les chercher chez eux ensuite. Et en Chine, on a plein d'exemples sur ça. Donc voilà, on en est là en France et dans d'autres pays. Donc il faut être très vigilant et aller finement dans toutes ces propositions où, une fois de plus, on va nous faire croire que pour éviter ou pour une sécurité maximum, on est prêt à tout et c'est nous qui sommes dans le viseur.
Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui a dit, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'était, qui a dit vouloir les États ou les régimes qui veulent privilégier la sécurité par rapport aux libertés n'obtiennent ni la liberté ni la sécurité. Voilà. Donc,
mais là, c'est vraiment tout de suite, quoi. Voilà. Savoir si cet article 7 va être. On sera vigilant et on vous tiendra au courant.
Mais je crois qu'avant la deuxième pause musicale, il y avait Claire Lys qui voulait vous parler des droits de l'enfant.
Oui.
C'est ça.
Et puis vous dire aussi que notre deuxième invité, il est arrivé un peu avant la première pause musicale. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu un tout petit peu de bruit. Vous n'avez pas dit que Lola nous avait rejoint dans le studio aussi, avec Jonathan.
On n'a pas dit. Voilà.
Voilà. Voilà. Bon, alors, je vais vous parler des droits des enfants dans le monde. Alors, il y a une commission enfants à Amnesty International et on reçoit un petit flash info avec des mini-articles sur, en fait, beaucoup de pays dans le monde par rapport aux droits des enfants. Alors, c'est en lien aussi avec ce que fait
l'UNICEF. C'est une revue de presse.
Oui, c'est une revue de presse. C'est en lien aussi beaucoup avec ce que fait l'UNICEF, avec des choses aussi qui se passent à l'ONU sur le droit des enfants. Et donc, les droits des enfants, eh ben, ils sont en net recul dans le monde. Le respect des droits de l'enfant, donc c'est en net recul dans le monde, a déploré Volker Türk, le chef des droits de l'homme à l'ONU, à l'ouverture des travaux de la 92e session du Comité des droits de l'enfant, qui se tiendra du 16 janvier au 3 février 2023. Donc seront examinés les rapports de la Suède, de l'île Maurice, d'Oman, de la Bolivie, d'Azerbaïdjan, d'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a des situations d'urgence dans le monde, entre autres au Soudan du Sud, au Yémen, en Haïti, en République démocratique du Congo, au Pakistan, au Burkina Faso, au Myanmar, dans l'État de Palestine, au Bangladesh, en Syrie et au Kenya, l'UNICEF alerte sur les situations extrêmement critiques qui requièrent un soutien accru en 2023. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur le travail des enfants, il y a une enquête de The Guardian qui révèle que 1 300 000 enfants travailleraient dans les champs de tabac au Malawi. Au lendemain de la pandémie du Covid-19, plus de 400 000 enfants ne sauraient pas retourner à l'école. C'est une situation qui est comparable au Zimbabwe, au Bangladesh, au Kazakhstan, au Brésil, etc. Donc, par rapport, rien que des enfants qui sont mis au travail et qui ne sont plus scolarisés. Il y a des situations très difficiles aussi qui sont... il y a une alerte par rapport à ce qui se passe au Kenya. L'ONG Education Cannot Wait, l'éducation ne peut attendre, et l'UNESCO annonce 1,5 million d'enfants risquent d'être déscolarisés en raison de la sécheresse historique qui touche l'Afrique de l'Est. Ce chiffre vient s'ajouter aux 1,9 million enfants déjà déscolarisés dans les régions arides et semi-arides du pays. Il y a aussi la situation au Zimbabwe. Donc, selon l'UNICEF, 2 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire en 2023 en raison de la sécheresse, des inondations, des épidémies, et 1 million d'enfants auront besoin des services de santé, de lutte contre le VIH et de nutrition pour sauver leur vie. Il y a des choses aussi qui en alertent par rapport à ce qui se passe, et ça c'est dramatique aussi en Ukraine. Les autorités ukrainiennes et des observatoires internationaux dénoncent la politique orchestrée par Moscou visant à transférer des mineurs sur le territoire russe et à les placer dans des familles d'accueil. Donc la Russie ne se contente pas de tuer ou de blesser des enfants, elle les enlève pour les déporter. Donc c'est Daria Gerasimchuk, conseillère chargée des droits de l'enfant auprès du président Volodymyr Zelensky, qui a déclaré cela. Et effectivement, ça a été dénoncé aussi que des enfants donc sont placés et sont retirés à leur famille, quoi.
Ou on a fait croire aux familles qu'on allait les mettre en sécurité, ouais, quand il y avait les bombardements. Et des familles après n'ont jamais revu leurs enfants.
Quand ils bombardent sur les hôpitaux et sur les écoles, c'est sûr qu'ils mettent un peu en danger les enfants. En Afghanistan, l'UNESCO a dédié la Journée internationale de l'éducation de 2023 aux filles et aux femmes d'Afghanistan qui ont été privées de leur droit de poursuivre des études secondaires et supérieures. Aucun pays au monde ne devrait empêcher les femmes et les filles de recevoir une éducation. La communauté internationale a la responsabilité de veiller à ce que les droits des filles et des femmes afghanes soient rétablis sans délai. La guerre contre les femmes doit cesser. Donc il y a plein d'articles dans notre flash info, il y a plein de références et de liens sur des articles de journaux en France, à l'étranger, sur des organisations, des ONG qui œuvrent par rapport aux droits des enfants. Et il y a un autre article qui est très, très inquiétant aussi et dont je voulais vous faire part, c'est, on n'a pas l'habitude d'en parler, c'est au Royaume-Uni. Donc depuis juillet 2021, 4600 mineurs non accompagnés ont été accueillis dans des hôtels. Depuis quelques jours, les autorités s'inquiètent de la disparition de très nombreux mineurs. Des élus et les associations craignent un trafic d'enfants. Selon France Info, 136 enfants ont disparu en un an et demi. Seuls 60 ont été retrouvés, alors que les autorités n'ont reçu aucun signal d'enlèvement. Donc ça, c'est inquiétant aussi, c'est-à-dire que les mineurs non accompagnés sont en danger et ne sont pas protégés comme ils le devraient, même dans des pays occidentaux comme le Royaume-Uni. Voilà, donc je vais arrêter parce que je vois que l'heure tourne, mais ce petit flash info, il est vraiment très 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 intéressant. Et on explique aussi, pour finir quand même, je vais revenir vers la France, on va leur remettre une petite louchée, le rapport annuel d'activité 2021 de la mission mineurs non accompagnés et de la DPJJ du ministère de la Justice, donc vient d'être déposé. Un article de La Vie publique essaie de faire le tour des différentes évolutions des rapports parlementaires sur les mineurs non accompagnés. Et Euphrasie Colossois, responsable plaidoyer de Médecins sans frontières France, alerte sur le fait que le principe de présomption de minorité pour les mineurs non accompagnés n'est pas respecté en France. Voilà. Et pour bien. Les épingler en beauté pour finir.
Comme tu disais, effectivement, c'est largement l'heure de la deuxième pause musicale, donc on l'écoute.
Mais c'est pas ma faute.
Tout de suite. J'ai pas dit, personne n'a dit que c'était de la faute
facile.
De personne.
On n'arrive pas à mettre une heure et demie d'émission en une heure.
C'est ça. C'est ça. Bon, un petit peu de musique.
De ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite et la fin de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. Et c'était Claire Lee, je crois, qui voulait vous parler de cinéma.
Oui, je vais vous parler d'un film qui passe. Il passe même à Évreux, dites donc. Il passe ce soir à 20h05. Alors, vous mettez vos chaussures vite fait, vous foncez dans votre voiture, vous m'écoutez et vous y allez. Ça s'appelle Néné Superstar de Ramzi Ben Slimane.
Et puis, je pense qu'il va passer toute la semaine. Il vient juste d'arriver.
Ouais. Alors, dans son film, donc Néné Superstar, le réalisateur Ramzi Ben Slimane met en lumière les discriminations raciales auxquelles peuvent être confrontées les personnes perçues comme racisées dans certains milieux. Alors, synopsis du film, née pour danser, Néné est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, Marianne Bellage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine. Donc le film, il est sorti en salle le 25 janvier 2023. Il passe actuellement à Évreux et la thématique, c'est la discrimination. Donc Amnesty International soutient ce film. Nous jugeons opportun de soutenir ce film car les thématiques abordées résonnent avec notre engagement qui vise à combattre toutes les formes de discrimination. Donc, ne pas subir de discrimination est un droit fondamental qui doit être respecté. De nombreuses déclarations ou conventions internationales, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, condamnent toutes les formes de discrimination. Chaque année en France, 1 200 000 personnes seraient victimes d'au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Donc, malgré les textes, ces personnes seraient victimes de ces atteintes à caractère raciste. Et dans ce contexte, certains discours toxiques, je ne vais pas vous redire de qui, se propagent et touchent différentes sphères, dont le milieu artistique. Donc le film Néné Superstar met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées certaines personnes perçues comme racisées dans l'accès à certaines pratiques comme la danse. Il donne une idée du plafond de verre qui doit exister pour les petites filles noires dans l'accès à certains milieux élitistes comme l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Donc vous avez la possibilité de retrouver ces thématiques. Sur le site d'Amnesty, il y a un document sur le film. Et ce film aussi, il y a tout un article qui est très très intéressant aussi, qui décrit plus particulièrement les thématiques du film. Donc je vous invite à pouvoir le retrouver. Donc c'est le livret d'accompagnement qui est téléchargeable sur le site d'Amnesty. Voilà. Mais je pense que c'est un très beau film et moi, je n'aurai pas le temps d'aller le voir.
Voilà, mais peut-être après...
On essaiera d'aller le voir, effectivement, je pense. Et on encourage tout le monde à y aller.
20h05, vous avez encore...
Petite action.
Oui, parce que Amnesty, c'est bien de nous écouter, c'est bien de prendre conscience de tout ce qui se passe, mais c'est aussi, on vous encourage le plus souvent possible, tous ceux qui nous écoutent, de passer à l'action. Et là, on va vous proposer une action urgente qui consiste à envoyer une lettre à Madame Dina Boluarte, qui est la présidente par intérim du Pérou. À ce moment, effectivement, au Pérou, suite à la destitution et à l'enfermement du président qui avait été démocratiquement élu il y a quelque chose comme un an et demi ou deux ans, et il est actuellement en prison. Et donc, il a été remplacé par une présidente par intérim qui fait réprimer les manifestations pour soutenir l'ancien président, qui fait réprimer les manifestations de façon extrêmement violente. Il y a déjà eu un certain nombre de manifestants qui ont été tués. Là-bas, effectivement, c'est pas vraiment les balles en plastique, mais c'est effectivement des balles réelles pour réprimer les manifestations aussi, un peu comme en Iran. Donc, ça consiste à écrire. Alors, vous avez toute cette action urgente sur le site d'Amnesty. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous tapez action urgente Pérou et vous tombez sur la page sans aucune difficulté, qui consiste à lui envoyer une lettre par email ou par courrier postal à cette présidente. Je vais vous lire simplement les premières lignes de ce courrier. Je vous écris afin de vous faire part de la profonde inquiétude que m'inspire la violence accrue visant les manifestants et manifestantes au Pérou, notamment le recours excessif à la force par les forces nationales de sécurité. En prenant pour cible des personnes ayant exprimé leur mécontentement face à la crise politique actuelle, la réaction du gouvernement a été abusive, disproportionnée et excessive envers les manifestants, et le pays est entré dans une dangereuse spirale de la violence. Je vous exhorte, Madame la Présidente, à mettre fin aux mesures répressives prises contre les manifestants, en mettant dans les faits les droits humains et le dialogue au cœur des solutions visant à résoudre la crise dans le pays. Voilà. Donc il faut écrire, n'hésitez pas, faites-le juste après l'émission ou dans les jours qui viennent si vous avez un petit peu de temps. Effectivement, vous pouvez compléter la lettre, mais tout est prêt. Il suffit de la signer et de l'envoyer par la poste ou par mail. Et plus on sera nombreux à l'envoyer, plus ça risque d'avoir un impact. Voilà.
Ça a même des chances.
Oui. Tout à fait.
Est-ce que je peux juste rajouter sur les actions, Claire-Lise, la dernière radio, tu parlais beaucoup de l'Iran, des condamnations à mort.
Et il y a encore un jeune là qui risque de...
Voilà, il y en a 7 ou 8. Enfin bon, il y a une photo là sur le site d'Amnesty aussi qui est très, très poignante, on va dire. Et l'action... C'est plus envoyé par mail. Twitter, ça marche toujours bien. Mais on peut aussi écrire à l'ambassade. Mmh. Moi, j'ai fait ça.
Alors, ils renvoient les courriers.
Mais c'est pas grave. Ils les ouvrent et ils les renvoient aux gens. Tant qu'il y aura le maximum de l'ambassade de France, d'Iran à Paris. Oui. Et donc, c'est aussi une action qu'on peut faire, nous, parce que c'est tellement compliqué d'aller jusqu'aux autorités iraniennes. Et ben, même s'ils nous renvoient nos lettres, on leur dit qu'on n'est pas d'accord. Et pareil, c'est pas compliqué. La lettre, elle est faite. Plouf, vous faites un copie-coller et vous l'envoyez. Ce que j'ai fait.
On peut aussi écrire à la représentation d'Iran à Bruxelles. Moi, je l'ai fait. Effectivement, il y avait une adresse aussi sur le site d'Amnesty, on peut écrire. Là, je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, j'ai pas reçu de réponse. Mon courrier ne m'est pas revenu, donc a priori,
on va bien reçu. Mais enfin, voilà, mais là aussi,
il y a différentes adresses sur le site d'Amnesty.
Là aussi, c'est le nombre qui fait le poids. Quoi.
Voilà. Donc, bon, on va passer aux infos locales, et puis on va laisser la place au laboratoire, notre ami du laboratoire qui vient d'arriver dans le studio. Et donc, les infos locales, en fait, ça va être très court. On en a deux, notre prochaine émission. Donc, pour la promotion et la défense des droits humains, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Donc, ce sera le mardi 14 février, de 19h à 20h, sur l'antenne de la radio. Et donc, on vous rappelle aussi que toutes nos émissions sont mises en podcast depuis très longtemps.
Bien le directeur de la radio.
C'est lui qui fait du bruit, pas nous.
Il y a JC qui rentre dans le studio. Donc, toutes nos émissions sont mises en podcast sur le site de la radio, donc principeactif.net. N'hésitez pas à les réécouter dans la rubrique Amnesty International. Et n'hésitez pas à les réécouter. On en a des dizaines et des dizaines qui sont archivées.
Écoutez pas tout quand même, parce que ça va être trop. Écoutez les dernières.
Voilà, oui. Et donc, deuxième info locale, on vous rappelle qu'on sera présent le vendredi 10 février, donc c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine, pour le concert de Médine. C'est du rap et c'est quelqu'un qui est très engagé pour la défense des droits fondamentaux et des libertés aussi. Et Médine qui sera en concert au Cube le vendredi 10 février, donc à 20h. Nous, on y sera pour tenir un stand d'information et de signature de pétition d'Amnesty ce soir-là au Cube. Donc, on vous attend aussi pour vous y retrouver. Voilà. Ça, c'était nos infos locales, effectivement. On vous rappelle, enfin, pour finir, le mail, si vous souhaitez nous contacter pour obtenir des renseignements, le mail du groupe d'Amnesty à Évreux, c'est evreux@amnestyfrance.fr. evreux@amnestyfrance.fr. Bien. Voilà, on va laisser l'antenne au laboratoire.
On va pouvoir saluer tout le monde.
Le dire au 14 revoir. Février. Voilà, et on dit au revoir aussi en même temps à Jonathan. Et puis, j'ai oublié son prénom, mais...
Lola,
c'est ça. C'est ça. Qui nous ont écoutés depuis une heure.
Ils ont été très sages.
Voilà.
Au revoir.
Donc, à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.